Chapitre 61. Ce qui avait donné cette grande confiance dans César, c'était d'abord son génie, mais c'était ensuite un présage. César, qui, lorsqu'ils annoncèrent sa mort, avait juré de ne plus les écouter, croyait cependant au présage. Comme tous les grands hommes, il était superstitieux. Chez certains génies, la superstition n'est point de la faiblesse, c'est de l'orgueil. Au moment de quitter Rome, César fit un sacrifice à la fortune. Le taureau qui devait être immolé échappa à ses gardiens et s'enfuit hors de la ville avant d'avoir reçu aucun coup. Puis, rencontrant un étang, il le traversa à la nage. « Que veut dire cela ?» demanda César au devin. « Cela veut dire, expliquèrent ceux-ci, que tu es perdu si tu restes dans Rome et si tu ne traverses pas à l'instant la mer, vaste étang qui te sépare de Pompée, tandis qu'au contraire, de l'autre côté de la mer, t'attendent la victoire et la fortune. » César partit, chargeant Antoine de lui amener le reste de son armée. Dès le lendemain de son départ, qui était la nouvelle de toute la ville, les enfants de Rome se divisèrent en deux camps, les uns césariens, les autres pompéiens, et, à coups de pierre, commencèrent une petite guerre. Une grande bataille fut le résultat de cette petite guerre, et l'on remarqua que les Pompéiens eurent le dessous. César, cependant, était à Apollonie, que sa garnison pompéienne n'avait même pas tenté de défendre. Il y a plusieurs Apollonies, ou plutôt, il y avait alors plusieurs Apollonies. La première en Macédoine, au sud-ouest de Thessalonique. C'est aujourd'hui Paulina. La deuxième, en Thrace, à l'entrée du golfe formé par le pont Euxin. C'est aujourd'hui Cisboli. La troisième, dans la Cyrénaïque, située au bord de la mer, au nord de Cyrène, à laquelle elle servait de port, c'est aujourd'hui Marsa-Susa. La quatrième, dans l'île de Crète, patrie du philosophe Diogène, et que l'on appelait aussi Eleutéra. La cinquième, en Palestine, près de Césarée, et qu'on appelle aujourd'hui Arzouf. Enfin, la sixième, en Illyrie, près de l'embouchure de la Housse, aujourd'hui le Vouissa. C'est dans cette dernière qu'était César. Là, il attendait le reste de son armée, qui ne venait pas. Les hommes comme César n'aiment point à attendre. Il dépêcha d'abord des messagers à Brinde, avec ordre de dire à ses soldats de s'embarquer à l'instant même et de ne point ménager les vaisseaux. « Je n'ai pas besoin de vaisseaux, disait-il, j'ai besoin d'hommes. » Au bout de quelque temps, ne voyant pas arriver ses soldats, il résolut de les aller chercher lui-même. C'est alors qu'il tenta une de ces folles entreprises qui lui avaient si souvent réussi dans la Gaule. Il envoya trois de ses esclaves sur les bords de la Housse, distant de 2000 seulement, avec charge de dire au premier batelier venu que César voulait expédier un messager en Italie et qu'il eût à donner une place à ce messager dans le premier bateau qui partirait pour Brinde. S'il n'y avait point de bateau en partance, les esclaves en loueraient un et autoriseraient le patron à prendre, outre l'envoyé de César, autant de passagers qu'il lui plairait. Plus il y aurait de passagers, mieux l'envoyé de César pourrait garder l'incognito. Au bout d'une heure, les esclaves rentrèrent, disant à César que tout serait prêt pour le soir même. César invita ses amis à dîner, comme il avait fait à Ravenne, au moment de partir pour Rome. Puis, comme à Ravenne, il les quitta au milieu du banquet, disons qu'on ne fit point attention à lui et qu'il allait revenir. Mais, passant sous sa tente, il prit le costume d'un esclave, se rendit seul au bord du fleuve et, reconnaissant le bâtiment à des signes qui lui avaient été indiqués, il dit au patron « Me voici, je suis le messager de César. » Le patron le reçut dans sa barque où attendaient 7 ou 8 passagers. César hâta le départ autant qu'il put. Il était important de profiter de la nuit pour passer inaperçu au milieu de la flotte pompéienne. Tout alla bien grâce aux avirons et au courant, tant qu'il ne s'agit que de descendre le fleuve. Mais à mesure que l'on approchait de l'embouchure, les flots de plus en plus soulevés, s'engouffrant entre les deux rives, formaient une espèce de flux qui empêchait la barque d'avancer ou ne lui permettait du moins d'avancer qu'à grand-peine. Enfin arriva un moment où tous les efforts devinrent inutiles. Un coup de mer brisa le gouvernail et le patron, épouvanté, donna aux rameurs l'ordre de remonter le fleuve. Ce fut alors que César, se levant et écartant son manteau, dit le fameux mot historique « Ne crains rien, tu portes César et sa fortune ». Une pareille révélation rendit le courage aux bateliers et aux rameurs. Tous les efforts furent réunis et l'on parvint à franchir l'espèce de barrage qui fermait la sortie du fleuve. Mais, une fois en mer, il devint impossible de gouverner la barque et le vent et les vagues la jetèrent sur la plage. Sur ces entrefaites, le jour était venu et l'on courait le risque d'être pris par l'ennemi. « Oh, fortune, fortune !» murmura César. « M'abandonnerais-tu ?» Puis il donna l'ordre de remettre la barque au fleuve. Et avec l'aide du vent qui le poussait à l'intérieur et des rames qui domptaient le courant, il eut, en moins d'une demi-heure, franchi les quelques milles qui le séparaient de son camp. Son retour fut d'une fête. On le savait parti, on le croyait perdu. Les uns louèrent son courage, les autres blâmèrent sa témérité. Ses soldats accoururent en foule autour de lui. Un d'eux fut député par les autres pour porter la parole au nom de ses compagnons. « César, dit-il, que t'ont fait ceux que tu appelais tes amis, que tu désespères de vaincre avec eux et que tu vas, par une inquiétude injurieuse, chercher ceux qui sont absents? Nous sommes moins nombreux que l'ennemi, c'est vrai, mais nous comptais-tu quand il fallait combattre les Gaulois? César, ton armée redemande ta confiance qu'elle n'a pas mérité de perdre. » Ce qui empêchait Antoine de sortir de Brinde, c'était la vigilance de Bibulus. Bibulus mourut et le gouvernement de la mer fut donné à Libon. Antoine, apprenant cette mort, résolut de profiter du trouble qu'elle devait jeter dans l'armée navale. Et tandis que Gabinius tournait par terre, il alla heurter franchement les vaisseaux qui fermaient le port de Brinde. Ses navires, à lui, portaient 20 000 fantassins et 800 chevaux. La ligne qui tenait la mer et bloquait le port fut brisée du choc. Antoine et ses vaisseaux passèrent. Mais la flotte tout entière de Libon se rallia et se mit à sa poursuite. Par bonheur, le vent du sud repoussait l'ennemi au fond du golfe. Il est vrai que le même vent portait les vaisseaux d'Antoine vers des rochers où ils ne pouvaient manquer de se briser. Ils en étaient déjà si près qu'Antoine et ses hommes se regardaient comme perdus, quand tout à coup le vent fit une saute et passa du midi au nord-est. Antoine orienta rapidement ses voiles et, en longeant la côte, la vit toute couverte des débris de la flotte de Pompée. Il profita de l'occasion, fit bon nombre de prisonniers, s'empara du port de Lissus, voisin de celui de Dyrrachium, et arriva au camp de César avec le double prestige de lui amener un gros renfort et de lui apporter de bonnes nouvelles. Pendant ce temps, une sorte de miracle avait seul sauvé César. Pompée, qui, avec toutes ses forces, avait résolu de l'écraser, marchait dans cette intention contre Apollonie. Mais sur son chemin, ayant rencontré la rivière d'Apsus, il lança deux hommes pour sonder le gué. Un des soldats de César, qui vit ces deux hommes à l'eau, s'y jeta à son tour, les attaqua et les tua tous les deux. Pompée résolut d'établir un pont. Le pont fut établi. César le laissa faire. À un moment donné, il comptait attaquer ceux qui seraient passés. Il n'eut point cette peine. 200 ou 300 hommes n'eurent pas plutôt gagné l'autre rive que le pont s'effondra. Tous ceux qui étaient dessus tombèrent à l'eau et se noyèrent. Ceux qui étaient déjà passés furent tués par les soldats de César, depuis le premier jusqu'au dernier. Pompée regarda ce double événement comme un mauvais présage et se retira.